Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Podcast de l'Académie des sciences.
L'affaire Dreyfus a déchiré la France. Symbole de l'erreur judiciaire, de l'antisémitisme, du nationalisme, de la volonté de revanche sur les Allemands, de la raison d'État, de la grande muette, les militaires n'avaient pas le droit de vote pendant la Troisième République. On ignore souvent que trois mathématiciens prestigieux de l'Académie des sciences ont joué un rôle décisif et positif dans cette histoire bien triste. Le regard des scientifiques dans une enquête policière. Je vais vous raconter tout ça. Il n'est bien sûr pas question de décrire en détail cette affaire d'une grande complexité qui a duré 12 ans. Mais voici quand même quelques jalons. En 1894, le capitaine Dreyfus est arrêté. On l'accuse de haute trahison suite à la découverte d'une lettre à l'ambassade d'Allemagne par une femme de ménage qui travaillait pour les renseignements français. La lettre, qui sera baptisée le bordereau, contenait des renseignements militaires confidentiels et Dreyfus est arrêté parce qu'on croit reconnaître son écriture. Il est d'une famille juive, alsacienne.
Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène, vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine.
Il est condamné, dégradé publiquement.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
Et envoyé au bagne sur la tristement célèbre île du Diable en Guyane. Cinq ans plus tard donc. La mobilisation des Dreyfusards et notamment d'Émile Zola avec son fameux « J'accuse » avait permis qu'il soit rejugé. Le conseil de guerre le juge cette fois à Rennes. Il est à nouveau condamné. Le jugement est politique, c'est un compromis qui a pour but de sauver l'honneur de l'État et de l'armée. 10 jours plus tard, le président Émile Loubet gracie Dreyfus, qui est remis en liberté. Cinq ans plus tard donc, la Cour de cassation accepte la demande en révision du procès Dreyfus. 1906, Dreyfus est réhabilité par la Cour de cassation de Rennes et réintégré dans l'armée avec le grade de chef de bataillon et décoré de la Légion d'honneur. Fin de l'histoire.
Le 20 juillet 1906, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale.
Je vais parler d'un aspect scientifique du procès de 1904, mathématique en fait. Trois mathématiciens de premier plan vont mettre en pièces les principaux arguments à utiliser pour démontrer la culpabilité de Dreyfus. Henri Poincaré, Gaston Darboux et Paul Appel. Henri Poincaré avait 50 ans en 1904, il était le mathématicien français le plus célèbre et le plus respecté. Membre de l'Académie des sciences déjà depuis 17 ans, il ne se mêlait pas de politique. Mais voici ce qu'il écrit en 1904. Il est clair que les savants, comme tous les citoyens, doivent s'intéresser aux affaires de leur pays. Dès qu'ils ont lieu de penser que leur intervention peut servir utilement les intérêts de la nation, il faut qu'ils sacrifient tout à ce devoir. Ont-ils à cet égard des obligations spéciales qui n'incomberaient pas aux autres citoyens? Doivent-ils plus que les autres à la chose publique? Oui, s'ils peuvent lui être plus utiles. Et ils peuvent lui être plus utiles si leur voix a plus de chances d'être écoutée. Mais y a-t-il des raisons pour qu'elle le soit? Le langage de la passion est le seul que la foule comprenne, et ce langage n'est pas le leur. Émile Appel était également un mathématicien important du même âge que Poincaré. Il sera président de l'Académie des sciences quelques années plus tard. Enfin, Gaston Darboux était un immense géomètre. Il avait 62 ans en 1904 et il était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Maintenant que nous connaissons les héros, voyons l'ennemi. Alphonse Bertillon, célèbre pour avoir fondé en 1882 le premier laboratoire de police scientifique et avoir créé l'anthropométrie. Bien que n'étant en rien un expert en graphologie, le conseil de guerre le consulte pour examiner le bordereau. Dreyfus en est-il l'auteur? Bertillon, antisémite notoire, en est convaincu. Il échafaude une théorie abracadabrantesque pour confondre Dreyfus. La théorie de Bertillon est impossible à décrire en quelques mots, tant elle est confuse et compliquée, souvent même ridicule et risible. Mais cette accumulation de non-sens semble pourtant convaincre le public et le jury. Poincaré ne tient plus. En 1899, lorsqu'il lit les pages du Figaro consacrées à la description du système Bertillon. Écoutons ce qu'il en pense. « J'ai été frappé, dit-il, du ton d'assurance absolue de M. Bertillon et de sa prétention d'introduire la certitude mathématique dans des questions qui ne sauraient la comporter à aucun degré. En voyant cela, j'ai eu quelque peu d'inquiétude à la pensée que ce système, grâce à sa complication pseudo-scientifique, grâce à son ingéniosité apparente, grâce aussi au ton d'affirmation absolue, imperturbable de M. Bertillon, pourrait, quoique tout à fait erroné, influer d'une façon quelconque sur l'esprit du Conseil. Je dois expliquer l'un des nombreux aspects de la théorie de Bertillon. Il affirme que lorsqu'on observe avec soin le bordereau, on constate de nombreuses coïncidences qu'il estime impossibles en termes de probabilité. Certains mots apparaissent deux fois et lorsque c'est le cas, les premières lettres ou les dernières lettres de ces mots dédoublés sont souvent, mystérieusement, presque sur la même verticale. Poincaré écrit Vous me demandez mon opinion sur le système Bertillon. Sur le fond de l'affaire, bien entendu, je me récuse, je n'ai pas de lumière et je ne peux que m'en rapporter qu'à ceux qui en ont plus que moi. Je ne suis pas non plus graphologue et je n'ai pas le temps de vérifier les mesures. Maintenant, si vous voulez savoir si dans les raisonnements où M. Bertillon applique le calcul des probabilités, cette application est correcte, je puis vous donner mon avis. Prenons le premier de ces raisonnements. le plus compréhensible de tous. Sur 13 mots redoublés, correspondant à 26 coïncidences possibles, l'auteur constate 4 coïncidences réalisées. Évaluant à 0,2 la probabilité d'une coïncidence isolée, il conclut que celle de la réunion des 4 coïncidences est 0,0016. C'est faux. 0,0016, c'est la probabilité pour qu'il y ait 4 coïncidences sur 4. Celle pour qu'il y en ait 4 sur 26 est 400 fois plus grande, soit 0,7. Cette erreur colossale rend suspect tout ce qui suit. Poincaré savait de quoi il parlait et il enseignait les probabilités à la Sorbonne. Faites donc le calcul pour vous convaincre que Poincaré a raison et que Bertillon a tort. Un joli exercice de probabilité. En 1904, Bertillon est toujours là, avec sa théorie énorme qui fascine le jury. Le tribunal demande à Poincaré, Darboux et Appel d'examiner les arguments de Bertillon. Il en résulte un rapport accablant de 100 pages. Ce rapport est un modèle de démarche scientifique. Tout y passe. Par exemple, pour travailler, Bertillon avait commencé par photographier le bordereau, puis à l'agrandir 10 fois, puis à recoller les pièces car ce bordereau avait été déchiré en 6 morceaux, puis à le superposer à une grille. Le papier du bordereau était extrêmement fin, presque transparent, et contenait un quadrillage en filigrane dans le genre des papiers qu'on utilisait jadis pour les courriers avions. Nos 3 mathématiciens font examiner l'ensemble à l'Observatoire de Paris avec des micromètres extrêmement précis, utilisés d'ordinaire par les astronomes pour les photographies du ciel étoilé. Ils constatent que les mesures de Bertillon ne sont pas correctes, que les petits carrés ne sont pas carrés, et que les droites parallèles ne le sont pas. Ils écrivent « Ainsi, M. Bertillon a pris toutes ses mesures avec un mètre faux, parce que les divisions étaient trop petites, parce qu'elles étaient irrégulières, parce qu'elles étaient mal définies par suite de l'épaisseur des traits de la division. S'il s'agissait d'un travail scientifique, nous nous arrêterions là. Nous jugerions inutile d'examiner les détails d'un système dont le principe même ne peut soutenir l'examen. Mais la Cour nous a confié une mission que nous devons accomplir jusqu'au bout. » Tous les arguments de Bertillon sont détruits un à un avec une rigueur scientifique incroyable. Un modèle de rapport. On sent parfois un peu d'agacement. Dans chaque page, on reconnaît le style direct et sobre de Poincaré. Il en profite par exemple pour expliquer de manière remarquablement claire ce qu'on appelle la probabilité des causes. 2 boîtes identiques, A et B, contiennent des boules blanches ou noires. La première contient par exemple 9 boules blanches et une noire, et la deuxième contient 2 boules blanches et une noire. On choisit au hasard, à pile ou face, l'une des 2 boîtes, puis une boule dans cette boîte. Il se trouve qu'elle est blanche. On comprend qu'il est plus probable qu'on ait choisi la boîte A, mais peut-on calculer la probabilité qu'en effet, ce soit A qui a été choisi? Poincaré nous explique tout cela d'une manière limpide. Bertillon a probablement lu le rapport et il a peut-être compris qu'il n'avait rien compris aux probabilités. Voici la conclusion du rapport. Un vrai coup de grâce. Ce que nous venons de dire suffit pour faire comprendre l'esprit de la méthode de M. Bertillon. Il l'a lui-même résumé d'un mot. Quand on cherche, on trouve toujours. Quand une coïncidence est constatée, c'est une preuve accablante. Si elle fait défaut, c'est une preuve plus accablante encore, car cela prouve que le scripteur a cherché à détourner les soupçons. On ne s'étonnera pas des résultats qu'il a obtenus par cette méthode. La naïveté avec laquelle il en a dévoilé les secrets porterait à croire à sa bonne foi. En résumé, tous ces systèmes sont absolument dépourvus de toute valeur scientifique. Parce que l'application du calcul des probabilités à ces matières n'est pas légitime. Parce que la reconstruction du bordereau est fausse. Parce que les règles du calcul des probabilités n'ont pas été correctement appliquées. En un mot, parce que les auteurs ont raisonné mal sur des documents faux. Signé Poincaré, Darboux, Appel. Ce rapport accablant est peu connu, mais il est permis de penser qu'il joue un rôle décisif dans la réhabilitation de Dreyfus. Peut-être parce qu'il est tout simplement impossible de le contester. Mais il faut bien dire que des calculs de probabilité ne sont pas toujours compris par un jury. Peut-être qu'il a été efficace comme argument d'autorité. Trois savants incontestables, non politisés, disent que Bertillon a tort. C'était important pour un jury. Le procureur général déclarera en 1906 « On prétendait transporter la lutte sur le terrain scientifique mathématique. Que les maîtres de cette science soient donc appelés à nous dire ce qu'ils pensent de la science de M. Bertillon et consorts, de leurs calculs et de leurs déductions. Elle a chargé de cet examen trois principaux membres de l'Institut. Elle a remis à ses savants, devant qui tous s'inclinent dans le monde entier, et qui sont l'honneur de notre pays, tous les documents. Leur a permis de s'entourer de tous les renseignements, d'entendre tous les témoins, de procéder à toutes les vérifications. C'est leur travail, messieurs, que nous vous apportons, que nous vous soumettons. Qui donc osera encore élever le moindre doute ? Je ne sais pas si Poincaré, Appel et Darboux ont apprécié que peu de gens ont lu finalement leur rapport de 100 pages, qui leur a probablement demandé beaucoup de travail et les a éloignés de leurs recherches scientifiques. Ils n'ont probablement pas apprécié que leurs conclusions ont été acceptées parce qu'ils sont l'honneur de notre pays. Les scientifiques aiment les preuves, pas les arguments d'autorité. Vous avez écouté des extraits de la bande-son du film J'accuse, de Polanski, de Sorrow, de Hans Zimmer et Lisa Gerhardt. Vous avez aussi écouté la voix de Dreyfus lui-même, évoquant sa réhabilitation. Enfin, des extraits d'une chanson de Yves Duteil, petit-neveu d'Alfred Dreyfus.
C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur ni son pays.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.